Le monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seloudia, bonjour. Au Sénégal, le bras de fer entre le pouvoir et Ousmane Sonko, principale figure de l'opposition, s'est durci mercredi avec son arrestation à Dakar à la suite de heurts sur le trajet du tribunal où il devait être entendu sur des accusations de viol contre lui. Nous y reviendrons dans quelques instants avec Mohamed Oumfa et Seydina Abagay, notre correspondant sur place. Au Tchad, 9 candidats, dont le président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 1990, s'affronteront à la présidentielle du 11 avril, selon la Cour suprême hier. M. Déby reste le grand favori face à une opposition morcelée et muselée, selon elle, par l'usage de la force. La Cour suprême a recalé 7 prétendants, dont Yaya Dilo Djerou et Succès Masra, et retenu les dossiers de 10 candidats, dont celui de Salé Kebzabo, rival historique de M. Déby. M. Kebzabo, cependant, s'est retiré de la course lundi, dénonçant ce qu'il a appelé une militarisation évidente du climat politique au lendemain de la tentative d'arrestation de Dilo Djerou dans un assaut meurtrier de la police et de l'armée contre son domicile de N'Djamena. Au Nigeria, au moins 6 civils ont été tués et plusieurs autres blessés ou portés disparus dans les attaques menées lundi et mardi contre la ville de Dikwa, dans le nord-est du pays, et revendiquée par des djihadistes liés au groupe État islamique, selon des ONG internationales. Toujours au Nigeria, les autorités locales ne s'attendaient pas à un tel accueil à Djangébé, où près de 300 adolescentes ont été ramenées après 4 jours de captivité. Les villageois, soulagés mais furieux de l'insécurité persistante dans le nord, ont attaqué le convoi des responsables de l'État de Zamfara. Le personnel de sécurité escortant le convoi a tiré en l'air et dans la foule, blessant au moins un villageois au ventre, selon un journaliste de l'AFP sur place. Le Rwanda est devenu ce mercredi le premier pays d'Afrique à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus, avec la livraison d'environ 100 000 doses, a-t-on appris de sources concordantes. Ce pays avait reçu plus tôt mercredi 240 000 doses du vaccin AstraZeneca, une première livraison dans le cadre de l'initiative COVAX, dispositif qui vise à fournir les vaccins anti-COVID aux pays à faible revenu. Une étude préliminaire réalisée en Afrique du Sud tend à montrer que les personnes contaminées par le variant sud-africain du coronavirus possèdent une meilleure immunité face aux autres mutations du virus, ont annoncé mercredi des experts. Cette étude suscite des espoirs qu'un vaccin fondé sur ce variant pourrait protéger contre de futures mutations du coronavirus. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a affirmé mercredi que la levée des mesures anti-COVID, notamment le port du masque dans les États du Texas et du Mississippi, découlait d'un raisonnement préhistorique et menaçait les progrès faits contre le virus. 10 roquettes ont touché mercredi une base abritant des soldats américains en Irak, provoquant la mort d'un sous-traitant civil américain victime d'une crise cardiaque. Nous sommes en train d'identifier qui est responsable et nous prendrons des décisions en fonction de cela, a déclaré à Washington le président Joe Biden. La Chambre américaine des représentants a annulé sa session programmée jeudi après l'alerte de la police sur le possible projet d'une milice d'attaquer ce jeudi le Capitole, cible d'un assaut meurtrier par des manifestants pro-Trump en janvier. Des membres du mouvement conspirationniste QAnon, qui n'ont jamais accepté la victoire de Joe Biden, pensent que le 4 mars se verra Donald Trump investi président des États-Unis pour un second mandat. Jusqu'en 1933, les présidents américains étaient investis le 4 mars et non le 20 janvier, comme c'est désormais la tradition. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Seloudia. La suite de nos informations. Au Sénégal, la capitale Dakar a été agitée hier par des affrontements entre forces de l'ordre et partisans de l'opposant et député Ousmane Sonko. Il a été arrêté sur le chemin du tribunal où il devait être entendu sur des accusations de viol. Précision de Mohamedou Humfa.
Ousmane Sonko se rendait chez le juge d'instruction pour être entendu après une plainte pour viol et menace de mort. Suivi par plusieurs centaines de supporters, son cortège a été arrêté à plusieurs reprises par les forces de l'ordre parce qu'il voulait emprunter un itinéraire différent de celui imposé par le préfet. Il y a eu des tirs de gaz lacrymogène pour disperser les groupes de partisans qui l'accompagnaient. Un bras de fer qui a duré plusieurs heures jusqu'à ce que l'homme politique soit arrêté et emmené à la gendarmerie à Kolobané où il a été placé en garde à vue. Les abords de la gendarmerie ont alors vu des groupes de jeunes harcelés pendant des heures à coups de pierre, les dizaines de policiers et gendarmes en tenue anti-émeute. Ils ont riposté à coups de gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes pour repousser les protestataires dans les rues adjacentes. Ousmane Sonko, dont l'immunité parlementaire a été levée vendredi dernier, était arrivé troisième à l'élection présidentielle de 2019. Il dénonce un complot politique de Macky Sall pour l'écarter de la course à la présidentielle de 2024. Le président sénégalais répond qu'il a suffisamment de choses à faire pour s'occuper des choses aussi basses.
Notre correspondant sur place, Sédina Abagué, y reviendra plus en détail en seconde partie de cette édition. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a dit hier que la compétition avec la Chine sera le plus grand défi géopolitique du XXIe siècle et la priorité de la politique étrangère du président Joe Biden. Il a promis de conjuguer fermeté et dialogue, Eric Manirakiza.
Dans son premier grand discours de politique étrangère depuis son arrivée à la tête du département d'État américain, Anthony Blinken a déclaré que plusieurs pays représentent des défis importants, dont la Russie, l'Iran ou la Corée du Nord, mais que celui posé par la Chine est différent. Selon lui, la Chine est le seul pays avec la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique susceptible d'ébranler sérieusement le système international, toutes les règles, valeurs et relations qui rendent le monde tel que nous le voulons. Il a promis que les relations avec Pékin seraient un mélange de compétition quand ce sera sain, collaboration quand ce sera possible et antagonisme quand ce sera nécessaire. La confrontation entre les deux premières puissances mondiales est allée crescendo. Au départ, principalement bornée à la guerre commerciale sous la présidence de Donald Trump, elle a viré au bras de fer sur des droits humains, la compétition technologique et la gestion du Covid-19. Monsieur Blinken n'est pas entré dans le détail de sa stratégie, mais a promis de dialoguer avec la Chine depuis une position de force. Il s'est exprimé peu avant que la Maison-Blanche ne dévoile dans la journée les lignes directrices de sa politique étrangère.
En Birmanie, au moins 38 manifestants pro-démocratie ont été tués et plusieurs blessés hier par les forces de sécurité qui continuent à tirer à balles réelles, défiant le concert de protestation internationale. Abdurrahman Dia fait le point.
L'émissaire onusienne pour la Birmanie, la Suissesse Christine Schaner-Bürgener, a demandé aux États membres et le Conseil de sécurité de prendre des mesures fortes. Elle souligne que la journée de mercredi a été la plus sanglante depuis le coup d'État du 1er février, avec 38 morts. Les forces de sécurité ont tiré à balles réelles dans plusieurs villes. Les protestataires continuent de demander le départ des généraux et la libération des centaines de détenus emprisonnés. Coupure d'Internet, renforcement de l'arsenal législatif, vagues d'interpellations, recours aux armes létales. La junte semble plus déterminée que jamais à éteindre la fronde qui souffle sur le pays depuis le coup d'État. La télévision d'État affirme que des protestataires sont morts en échangeant des coups de feu et que les tirs ne provenaient ni de la police ni de l'armée. L'ex-président de la République, Win Myint, déjà inculpé pour ne pas avoir respecté des restrictions liées au coronavirus, est désormais accusé d'avoir enfreint la Constitution. Aung San Suu Kyi, toujours tenue au secret, est elle visée par 4 chefs d'accusation, notamment incitation aux troubles publics.
Minute Éco, Eric Malirakidza.
La RDC veut accroître l'accès à l'énergie de ses populations avec l'appui de Proparco. Cette branche de l'Agence française de développement a investi 1 million d'euros pour l'électrification du Nord Kivu. C'est l'ex-entreprise Kivu Green Energy, devenue Nuru, qui a gagné le marché. Ce développeur de mini-réseaux hybrides solaires devra fournir de l'énergie à 330 000 personnes. ExxonMobil a exposé mercredi sa vision d'un avenir à faible émission en carbone. L'entreprise américaine, négociant le tournant des impératifs du changement climatique, prévoit d'investir 3 milliards de dollars dans les solutions visant à abaisser les émissions en carbone d'ici 2025. Cette somme est bien loin des 20 à 25 milliards de dollars que le groupe prévoit de dépenser chaque année entre 2022 et 2025 pour alimenter sa croissance via de nouveaux projets d'exploration de pétrole et de gaz. Un petit bol de porcelaine chinois acheté 35 dollars dans un vide grenier du Connecticut dans le nord-est des États-Unis va être vendu aux enchères pour une valeur estimée entre 300 000 et 500 000 dollars. Il date du 15e siècle et il a été peint pour la cour de l'empereur Yong, troisième empereur de la dynastie Ming. La vente est prévue le 17 mars.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. L'international ivoirien Franck Kessier a sauvé le Milan AC hier en Serie A. Privé de leur buteur, le Suédois Zlatan Ibrahimovic, blessé à l'adducteur gauche, les Milanais ont été surpris à domicile par l'Udinese qui a ouvert le score grâce à Rodrigo Becao à la 11e minute. Les hommes de Stefano Pioli ont évité la défaite de justesse grâce à leur milieu de terrain ivoirien Franck Kessier qui a égalisé à la 96e minute sur pénalty. Les Rossoneri, toujours dauphins de leur rival l'Inter avec 53 points, voient revenir la Juve, troisième avec 49 points et un match en retard après sa victoire 3-0 contre Spezia mardi. De son côté, l'AS Rome a arraché la victoire 2 buts à 1 sur la pelouse de la Fiorentina grâce à un but d'Amadou Diawara à la 90e minute pour s'accrocher au wagon de tête. Ligue 1 en France, Lille a conservé in extremis sa première place dans le championnat en battant l'Olympique de Marseille 2 buts à 0, imitant le Paris Saint-Germain et Lyon qui ont connu un succès 1-0 face à Bordeaux et Rennes lors de la 28e journée. Les Dogues ont assommé Marseille dans les ultimes secondes du match avec un doublé de Jonathan David à la 90e et à la 93e qui maintient les Parisiens à 2 points et les Lyonnais à 3 unités. En Espagne, 2 jours après la perquisition et les arrestations qui ont secoué le FC Barcelone, les Catalans ont réussi leur remontada face à Séville hier, 3-0 après prolongation pour se hisser en finale de la Coupe d'Espagne. Après avoir perdu 2-0 à l'aller, le Barça a pris les devants grâce à une frappe en pleine lucarne d'Ousmane Dembélé à la 12e minute, puis a arraché la prolongation grâce à une tête de dernière minute de Gérard Piqué. Il a ensuite validé son ticket pour la finale grâce à un but de Martin Brandwaite en prolongation à la 95e. En Angleterre, Manchester United et Leicester poursuivent leur course d'escargot pour la 2e place de la Premier League. Les deux équipes ayant fait match nul à Crystal Palace 0-0 et Burnley 1-1 hier en match avancé de la 29e journée. Les Red Devils ont enregistré leur 3e 0-0 de suite contre les Londoniens avec 51 points. Les Mancuniens gardent la 2e place et leur point d'avance sur Leicester. Dans l'autre match d'hier, la lanterne rouge Sheffield United a obtenu son 3e succès de la saison en battant Aston Villa du Burkina Bébétran Traoré 1-0. En revanche, Chelsea du Marocain Hakim Ziyech et Liverpool du Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keïta et Joël Matip qui s'affrontent ce soir pourraient réduire leur retard de 7 et 8 points en cas de succès.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seloulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été donc placé en garde à vue pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée suite à des tensions entre son camp et les forces de l'ordre. Le député qui devait faire face à un juge d'instruction dans le cadre d'une affaire de viol présumé n'a pas pu rejoindre le palais de justice car il n'a pas voulu emprunter l'itinéraire imposé par le préfet de Dakar. Son arrestation a déclenché de vives tensions dans la capitale sénégalaise. Le point avec notre correspondant à Dakar, c'est Dina Abagui.
Des jets de projectiles et des grenades lacrymogènes ont fusé de partout hier à Dakar. Des voitures ont été caillassées et des grandes surfaces saccagées lors des affrontements entre des partisans de l'opposant Ousmane Sonko et les forces de l'ordre dans différents quartiers de la capitale sénégalaise. C'est l'arrestation du leader du parti PASTEF, les Patriotes, qui a mis le feu aux poudres et la tension est restée vive. Koumba Diéye, la cinquantaine, déplore cette situation et accuse le régime en place.
Ousmane Sonko n'est pas un peureux. J'estime qu'il est innocent. Ousmane Sonko est accusé à tort. La gestion de cette affaire est partiale. Nous assistons à un complot national et l'opinion internationale est témoin. Les commanditaires de ce grand complot doivent revenir à la raison. Tout ceci pour rester au pouvoir. Son objectif est d'éliminer son rival politique. Dieu voit tout. Tout est à l'arrêt aujourd'hui à cause des manifestations. Tout est bloqué aujourd'hui. C'est inadmissible. Nous sommes fatigués.
Tous les yeux sont maintenant rivés sur le Sénégal, pays souvent cité comme modèle de démocratie en Afrique. Le principal opposant est arrêté pour trouble à l'ordre public, ce qui a suscité des vagues de colère. Certains estiment que les priorités du pays sont ailleurs en cette période de pandémie. C'est l'avis de cet homme qui a requis l'anonymat.
Je pense qu'avec une situation sanitaire compliquée, accentuée par une crise économique, nous devions avoir d'autres priorités au lieu de rester là à scander le nom de Ousmane Sonko et à manifester. Mais malheureusement, les populations sont là à payer les frais. Les forces de l'ordre sont épuisées, il faut le dire. Beaucoup de gens ne sont pas allés au travail. Je pense que ce jeûne ne nous mènera nulle part. Le retour au travail, notamment à la relance de l'économie.
La défense d'Ousmane Sonko dénonce son arrestation. En plus d'être accusé de viol, il est maintenant poursuivi pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Un de ses avocats, Maître Ousseynou Ngom, fustige cette démarche qu'il juge arbitraire.
Monsieur Sonko n'a commis aucun acte dans le sens de troubler un quelconque ordre public. Il a voulu déférer à la convocation de la justice. Il y a eu des circonstances qui sont indépendantes de sa volonté. Donc on ne saurait lui imputer ces faits. En tant que citoyen, en tant que légaliste, il n'a opposé aucune résistance. Ses gardes rapprochés ont été arrêtés. Il leur a dit n'opposer aucune résistance. Je ne pense pas que le comportement d'un tel monsieur puisse s'inscrire dans une infraction de trouble à l'ordre public.
La situation reste tendue à Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis et dans d'autres villes où des jeunes continuent de faire face aux forces de l'ordre. Pendant ce temps, Ousmane Sonko est toujours en garde à vue à la section de recherche de la gendarmerie pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Des chargés qui s'ajoutent à l'accusation de viol qui a conduit à la levée de son immunité parlementaire. C'est Dina Abagui à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Congo-Brazzaville, plusieurs organisations de la société civile appellent les autorités à organiser un dialogue inclusif avec tous les acteurs politiques afin de tenir une élection présidentielle équitable et apaisée. À Pointe-Noire, la capitale économique, ces ONG sensibilisent la population avant le scrutin. Notre correspondant Arsène Séverin est sur place.
La population de Pointe-Noire suit de près le processus électoral. La société civile est même très divisée sur l'appréciation du scrutin à venir. Pour le mouvement citoyen Le Ras-le-Bol, l'élection présidentielle est déjà biaisée. Son porte-parole, Christine Dongui.
La CENI et le ministère de l'Intérieur, c'est les deux d'ailleurs qui vont voter. En fait, c'est pas le souverain primaire comme tel. Je dirais c'est une élection biaisée d'avance. Nous allons, je pense, faire du porte-à-porte. Il faudrait pas que le vote soit volé.
Franck Badiata, le responsable du ras-le-bol à Pointe-Noire, se plaint de la situation des jeunes qui seraient l'objet de la manipulation politique.
Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes aujourd'hui jusqu'à près de 40 ans. Le pouvoir, rien n'a changé. La jeunesse de Pointe-Noire est toujours marginalisée. Depuis les dernières élections de 2016 encore, nous vivons vraiment l'invivable ici à Pointe-Noire.
Il y a par ailleurs ici des ONG qui suivent régulièrement les élections depuis des années. C'est le cas de la Commission catholique Justice et Paix qui est en train de former 4000 observateurs pour ce scrutin. Brice Makosso, son secrétaire permanent à Pointe-Noire, espère que le gouvernement leur accordera des accréditations nécessaires.
Moi, je ne dis pas que je suis en train de soutenir le processus. Nous le dénonçons, nous disons que le processus, il est biaisé. C'est une élection qui est mal engagée, mais on ne peut pas se mettre en retrait. Sinon, lorsqu'on n'est pas témoin, on n'a pas le droit de témoigner à la fin. Nous sommes en capacité de déployer plus de 4000 observateurs à travers toute l'étendue du territoire national. Et nous demandons évidemment au gouvernement, s'il n'a rien à cacher par rapport à cette élection, de nous accorder cette accréditation, de nous donner le droit de déployer nos 4000 observateurs que nous avons formés.
Dans la même optique, la RPDH du président Christian Mounzeo estime que le boycott pour les boycotts n'est pas une solution politique.
Il est clair que l'élection se tiendra le 21 mars prochain. En tant que citoyens observateurs, nous pensons que les conditions pour que l'observation indépendante de cette élection soit réunie au stade actuel, on peut voir que même ne serait-ce que la campagne électorale, il y a un manque d'équité. Lorsqu'on voit que, par exemple, le candidat de la majorité est pour sa part, depuis de longues semaines, dans une sorte de pré-campagne, de campagne électorale qui ne dit pas son nom.
Pointe-Noire reste la poule aux œufs d'or tant convoitée par les 7 candidats en lice à cette élection présidentielle. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, qui avait réalisé un très mauvais score ici en 2016, va lancer vendredi prochain sa campagne électorale au rond-point Lumumba. Arsène Séverin, Pointe-Noire, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Cameroun, le nombre de décès et de personnes testées positives au Covid-19 est en augmentation. Le pays est passé de 46 décès par mois en 2020 à une moyenne de 52 morts par mois en 2021. Et près de 10 000 nouveaux cas ont été enregistrés entre fin décembre 2020 et le mois dernier. Conséquence, les centres de prise en charge ne désemplissent pas suite à un relâchement général des mesures barrières. Emmanuel Jules Tap, notre correspondant au Cameroun, a obtenu une interview exclusive avec le ministre camerounais de la Santé publique, Malachi Manoada, qui aborde le plan de riposte du gouvernement.
Nous gardons notre stratégie de 3T, traquer, tester et traiter. Nous gardons la décentralisation de la réponse qui implique, n'est-ce pas, tous les acteurs de la chaîne jusqu'aux leaders d'opinion, jusqu'aux leaders religieux, jusqu'aux dans les communautés. Ce qui pourrait changer en réalité, c'est simplement davantage d'engagement dans le respect des mesures barrières et dans le port systématique des masques, parce qu'il y a eu un relâchement. Et nous nous mettrons à disposition de quoi tester massivement les populations, notamment dans les formations sanitaires qui constituent une forme de surveillance active des cas. Les personnels de santé puissent à intervalles réguliers être systématiquement testés. Tout ce qui arrive dans notre pays, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou alors maritime, sont testés.
À vous écouter, monsieur le ministre, vous avez beaucoup parlé de tests, mais pas de vaccins. Certains pays africains, le Ghana, Côte d'Ivoire, la RDC, ont plus ou moins déjà commencé des campagnes ciblées. Quelle est l'option du Cameroun à ce sujet?
Lorsque les vaccins ont été découverts, ce que le président nous a demandé, c'est de préparer le Cameroun à une éventuelle introduction de ce vaccin. Au cas où la situation épidémiologique comment est-ce qu'on ait besoin d'un vaccin, que ce vaccin ne soit pas en manque au Cameroun. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Un plan de déploiement et de vaccination a été validé, élaboré et validé. Nous avons souscrit à l'initiative COVAX et naturellement, nous sommes en train de remplir les conditions pour recevoir dans les jours qui suivent aussi le vaccin.
Qui sera prioritaire, monsieur le ministre?
Le conseil scientifique et le NITAG ont rendu leur copie sur la question. La priorité va être consacrée au personnel de santé.
L'initiative Follow the Money, qui est née au Nigeria, a été lancée au Cameroun par une jeune ONG qui voudrait avoir plus de transparence dans la gestion de fonds Covid. Y a-t-il eu transparence sur la gestion de fonds Covid au Cameroun?
Chaque fois qu'on me pose la question, ça me fait sourire. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous dit encore. Vous le savez très bien, nous faisons l'objet de contrôles. Le contrat semble faire son travail. Pourquoi est-ce qu'on anticipe ainsi une certaine conclusion alors qu'il y a des gens qui sont en pied d'œuvre? Moi, je crois que ce serait mieux de le faire. Au départ de l'épidémie, on nous a annoncé des milliers et des millions de morts. On nous a annoncé des milliers et des millions de contaminés. Un an après, nous n'en avons pas. Est-ce que ça veut dire qu'on a été performant sur la question? La sentence est claire. Le président de la République a pris les meilleures décisions pour ses compatriotes. Il a sauvé la vie de ses compatriotes. Je crois que c'est qu'on devrait en principe d'abord retenir avant de pouvoir rentrer dans la polémique.
Le ministre camerounais de la Santé publique, Malachi Manouadoua.
Avec vous, dans Washington Forum cette semaine, la campagne pour les législatives du 6 mars a été lancée en Côte d'Ivoire. Le FPI de Laurent Gbagbo, dont le retour à Abidjan est évoqué, participera à ces élections, une première depuis 10 ans. Et ce sera en alliance avec le PDCI d'Henri Colombier, qui avait contesté la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat en octobre dernier. Quels sont les enjeux de ces législatives? Va-t-on vers une décrispation en Côte d'Ivoire? Nous en discuterons avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com.
Nous reparlons de l'élection à la présidence de la CAF prévue pour le 12 mars. La volonté prêtée à la FIFA de trouver un consensus autour du Sud-Africain Patrice Motsepe pour présider la Confédération africaine de football n'est qu'un accord de principe et la méthode n'est pas trop démocratique, a estimé le candidat ivoirien Jacques Anouma dans un entretien à l'AFP. Yacouba Ouedraogo revient sur cet entretien.
Quatre candidats sont en lice, le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yaya et l'Ivoirien Jacques Anouma. Après une rencontre des quatre à Rabat au Maroc le week-end écoulé, selon des sources proches des candidats, Augustin Senghor et Ahmed Yaya seraient prêts à accepter la proposition du président de la FIFA, Gianni Infantino, de renoncer à se présenter lors du scrutin pour laisser la scène aux milliardaires sud-africains. Contre les pousses du premier et deuxième vice-président, Jacques Anouma se verrait proposer un poste de conseiller du président. L'Ivoirien sort du silence et confirme qu'il y a bel et bien eu entente, mais juste un accord de principe. Jacques Anouma.
C'est un accord de principe, ce n'est pas un accord définitif. Tous les trois candidats, chacun peut sortir de cet accord-là quand il veut, avant la date du 6.
L'Ivoirien confirme que son concurrent sud-africain Patrice Motsepe a bel et bien été proposé comme président de la CAF.
Pour le moment, c'est lui qu'on a proposé devant. Maintenant, si moi, en retour ici, on me dit non, on n'est pas d'accord, machin, non, mais si on n'est pas d'accord, la seule chose, façon de nous départager, c'est l'élection. C'est ça même qui est démocratique.
Anouma dénonce par contre le procédé par lequel cet accord de principe a été obtenu.
Aujourd'hui, on met plutôt en avant une définition de poste qu'un accord de aller vers l'unité. On est tous d'accord qu'on a tellement montré un visage qui n'était pas très beau. Mais si on peut arriver à cette unité, ne voyons pas nos personnes. Moi, vraiment, je suis choqué parce qu'on a l'impression qu'on a sacrifié l'Afrique sur l'autel de nos ambitions personnelles.
L'ancien membre du comité exécutif de la FIFA se dit cependant prêt à accepter un compromis si cela aiderait le football africain à aller de l'avant.
Si un accord politique peut permettre de sauver l'institution, mon cher frère, je suis preneur. Si ça peut permettre de sauver l'institution, dans le respect mutuel de la qualité et de la compétence de chacun.
Après la rencontre de Rabat, chaque candidat est rentré dans son pays pour des consultations. Ils doivent se retrouver le week-end à Nouakchott en Mauritanie lors de la finale de la CAN de moins de 20 ans. pour arrêter un choix avant l'élection du 12 mars.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.